Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin. Ce que j'aimerais, en vrai, avec toi, penser à autre chose. La même, mais en vacances. Et nous embrasser un court moment d'éternité. Embrasser le théâtre, le féminin, l'accueil et le rejet, la laine perdue, l'homme et l'enfant, l'aube et le crépuscule des ventres. Seule question qui vaille. Qui embrasserait qui ? On ne toucherait le fond jamais, sinon par inadvertance. Le temps nous foudroierait des feuilles aux racines pendant des millénaires. Nous nous ramifierions en prenant le ciel pour assise. L'expansion de l'univers mettrait au monde l'intérieur. On n'aurait pas le temps, on le serait devenu. On s'écrierait d'amour, étonné de n'en rien savoir. Nos gestes détruiraient l'espace et place à la durée. L'infime reflèterait nos appétits exagérés. Le théâtre serait lucidité et l'air, musique. Nous gémirions, pour le fun, sur les autrefois révolus, à perte de vue. Nous enlacerions nos voix dans les contrées de Protée, petits et géants, l'un pour l'autre. L'inaccessible mourrait sur la grève et nourrirait le quotidien de jouissance. On aurait enfin le temps. On aurait enfin le temps d'avoir tout perdu. Bonheur incertain. Goutte à goutte, saturé de désir.
Des mots et merveilles. Vents et marées, au loin, déjà la mer s'est retirée. Mais toi, comme une algue, doucement caressée par le vent, dans les sables du lit, tu remues en rêvant. Des monts et merveilles, vents et marées, au loin, déjà la mer s'est retirée. Mais dans tes yeux entrouverts, de petites vagues sont restées. Des monts et merveilles, vents et marées, de petite vague pour me noyer.
Bonjour Jean-Guy Angle.
Bonjour.
Pourquoi est-ce que vous avez souhaité associer le texte que vous venez de nous lire avec la chanson de Jacques Prévert et Maurice Thiriet, extraite des Visiteurs d'Histoire, chantée par Cora Vauquer.
J'avoue que, comme les choses se sont faites en plusieurs temps, je n'ai pas particulièrement associé ou voulu associer, mais ça tombe très bien, comme quoi ça peut arriver, parce que des monts et merveilles, bon, c'est une question de finitude et d'infinitude, et j'ai voulu, avec le texte lu, j'ai voulu dire à quel point on peut être contradictoire dans la poésie et à quel point ça fait du bien même de l'être, parce que c'est quand on n'a plus de temps ou qu'on n'a pas de temps qu'on va peut-être le prendre, devoir le prendre, être dans la nécessité de le prendre. Voilà, et bon, c'est probablement une question d'amour.
Alors justement, Jean-Guy, comment est-ce qu'on rentre en écriture? Comment se fait ce déclic? Quel mot? Comment on fait?
Alors ça, c'est effectivement, c'est capital, parce que il m'est arrivé dans une session de travail université d'été du groupe français d'éducation nouvelle dans les années 85, de participer à un atelier dit d'écriture. On ne savait pas ce que ça voulait dire exactement. Et je posais la question à l'animateur. Moi, voilà, je fais de la formation pour adultes, je prépare soigneusement des consignes de travail pour des ouvriers, pour des cadres. Il s'agit de réfléchir à des situations de communication, de conflits, etc. Et je lui demande, est-ce que c'est de l'écriture? Alors, je lui en cite une récente dans mon histoire d'animateur de formation continue. Et il me dit, mais pourquoi ça ne serait pas? Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors bon, j'étais un peu désarçonné, je savais pas si c'était oui ou non, bon là. Et on repart, après la pause, on repart dans un atelier d'écriture poétique. Bon, c'était un autre monde pour moi que le monde de la rationalité d'entreprise. Et peu à peu, la remarque un peu socratique de cet animateur m'a fait me rendre compte qu'en réalité j'écris quand je passe des consignes, parce que je les soigne, parce que j'y pense, parce que j'aime ça, et de proche en proche je me rends compte que j'écris depuis que je sais écrire. Voilà, donc ça c'est le début, quoi. Ça c'est le tout début. Après il y a l'école, quoi. Il y a l'école. L'école avec des rencontres complètement lumineuses et fécondes pour moi. Il y a d'abord la rencontre des enseignants. C'était une époque qui n'a pas changé d'ailleurs, je pense, où les enseignants respiraient une dignité qui était inattaquable. Bon, c'est peut-être encore les hussards de la République. Puis il y a eu le passage du latin au français avec Villon. Bon, je me suis rendu compte dans une petite rédaction qu'on nous avait fait faire que ben, c'était quelque part une langue dans laquelle j'étais bien, une langue, on dit d'autres personnes un peu plus tard, une langue pas encore stabilisée forcément, le passage du latin au français. Et je suis resté longtemps dans une langue pas stabilisée, peut-être j'y suis encore, et j'y dis bien. Voilà. Ça, c'est Lyon. Et puis un troisième élément scolaire qui est un passage par un tunnel très long de ce qu'on appelait autrefois la nullité en mathématiques. Et un jour, un enseignant a fait une remarque dans toute la classe, comment ça se fait, il y a pourtant des gens intelligents chez vous, dans cette classe, et la note la meilleure c'est 11, comment ça se fait, pourtant je croyais que des gens intelligents, quand ils comprenaient pas, ils posaient des questions, on se dit tiens, peut-être qu'ils s'adressent à moi, pourvu qu'ils s'adressent à moi un peu aussi. Donc je me suis mis à poser des questions sur des mathématiques que je ne comprenais pas depuis très longtemps, parce qu'on était en terminale et moi depuis la sixième j'étais en queue de classe. Voilà, et donc je me suis mis à poser des questions, est-ce que c'était pour avoir l'air intelligent, pour me persuader que je l'étais un peu, bref, en tout cas, j'ai posé des questions sur le français des mathématiques, puisque ce monsieur, ce professeur, rédigeait son cours au tableau, donc à la craie, sur le tableau noir. Et donc j'avais sous les yeux du français, et je me suis mis, parce que c'était un peu mon appétence, on va dire, je me suis mis à questionner les tournures grammaticales, les redondances, etc. Et peu à peu, je suis rentré dans les mathématiques par là. Voilà. Donc ça, c'est quand même des tournants importants, parce que bon, j'ai ensuite de très bons résultats en mathématiques, y compris dans le supérieur. Voilà, ça c'est le début. Après, il y a l'école, il y a la famille, un bain familial, la chance d'être entouré de livres. Je n'ai jamais vu mes parents lire, mais maintenant que j'ai leur bibliothèque, je me rends compte que ben, les livres que j'ai, ils les ont lus, parce que je les entends les dire, enfin en parler. Bon, il s'est trouvé qu'étant enfant chez ma grand-mère, on allait de préférence, en bon catholique, suivre les grandes messes chantées, et que c'était du grégorien et en latin, et que je me régalais d'entendre ça et de marmonner ce que je croyais être, ce que je croyais être le chant, quoi. Hein. Et ma grand-mère, s'apercevant que j'essayais de chanter le latin sans le comprendre, automatiquement fait donner des leçons de latin par le curé, etc. Donc j'étais dans un bain, on va dire comme ça, qui était attentif à la langue et qui la produisait à tous les tournants, quoi. Et aussi parce que, comme ce milieu était comme ça, sans être très ni privilégié ni très fortuné, ben j'avais le goût aussi des autres langues. C'est-à-dire qu'en allant faire les commissions, j'habitais une petite ville de province très, très ouvrière, et donc il y avait à tous les coins de rue, à l'épicerie, une langue populaire que je rapportais à la maison, voilà, parce que je trouvais ça savoureux. Voilà, quelques éléments qui m'ont amené à être intéressé par le français dans tous ces états, enfin, dans un certain nombre d'états.
Voilà. Alors, un peu plus tard, dans votre vie professionnelle, vous allez encore parler français, vous allez encore vous intéresser à la langue française pour transmettre les sciences économiques. Vous avez brièvement évoqué par une autre activité plus tard de formateur d'adultes. Ce qui nous a intéressé dans la préparation que nous avons faite de l'émission, c'est que les sciences économiques, vous n'imaginiez pas de les faire passer à vos élèves sans instaurer avec eux un système de méthode active.
Oui, c'est-à-dire, ça, j'y ai été obligé parce que moi, j'étais pétri de la vieille école, enfin, l'ancienne école, on va dire, où le cours magistral, personne ne moufte, on lève le doigt pour parler, et encore, quand on est interrogé, bon, c'était aussi la méthode en famille, hein, on ne parle pas à table, les enfants ne parlent pas à table, c'était ça, l'éducation que j'avais reçue, petit. Et donc, mais là, je me trouvais dans une école privée qui accueillait des enfants de familles connues, de la politique, de l'économie, de la diplomatie, etc. Et donc, c'était des enfants qui, le plus âgé ayant 19 ans en seconde, étaient quand même dotés, on va dire, sur le plan du langage. Et donc, ils avaient un oral qui était en parité avec moi, on pourrait dire. Voilà. Simplement, bon, ils n'avaient pas les moyens de réfléchir, ils n'avaient pas les moyens d'articuler, de questionner, de douter, de critiquer. Voilà. Donc c'est ce que je me suis mis à vouloir leur apprendre, étant d'abord sommé d'apprendre, de faire passer un cours, un programme. Et quand à la fin du premier trimestre, je me suis trouvé, moi, en échec, parce que j'avais pas de notes au-dessus de la moyenne, dans les interrogations, orales ou écrites, etc. Donc j'étais en échec, et très énervé, et en même temps, comme c'était mon gagne-pain, j'avais pas d'autres sources de revenus, il fallait qu'à la rentrée, ça change, quoi, de braquer. Donc, devant des enfants endormis de leur passage dans les boîtes de nuit de l'Ouest parisien, ou de la télé jusqu'à plus soif, je me mets dans un ricanement intérieur, je me mets à leur dire, et au fait, peut-être que l'année prochaine, ça vous intéresserait de réussir en sciences éco, oh, pas 10, 11, non, 15, 16, comme ça. Alors déjà, les enfants ont l'air de se réveiller, de se redresser sur leur séance, et j'ajoute, pour beaucoup de banderies à disposition, je leur dis, et en plus, sans en faire plus que ce trimestre. Hein. Alors c'était un ricanement dans mon intérieur. Et alors là, les enfants étaient debout, droit sur leur chaise, et éveillés, complètement éveillés, et donc j'ai compris que c'était sérieux pour eux de réussir en sciences éco sans en foutre plus que ça. Et donc je me suis mis à travailler pendant les vacances sur ce que j'ai compris après être nommé en psychopédagogie les méthodes actives. Voilà, donc je me suis retrouvé à faire du freiné sans le savoir, etc. Des enquêtes, des films, des enregistrements, des photos, des revues, des voilà, etc.
Quelle est vraiment cette méthode?
Alors,
est-ce que vous pouvez en dire plus?
Ah oui, je peux en dire plus, bien sûr. Oui. Alors, c'est à base donc de recueil de données sur des terrains. D'abord, c'est en groupe, c'était pas à moins de deux. Voilà. Sur 24 élèves par classe, il y avait, je ne sais pas moi, peut-être 6-7 groupes qui s'intéressaient au même sujet, qui étaient prédéterminés par le programme. Et ils allaient avec des magnétophones, avec des appareils photo, et allaient recueillir, cravater, si on peut dire, les dépliants, interviewer des responsables d'entreprise, voilà, et ramener ces documents en classe, voilà. Et ces documents étaient ramenés dans le cadre d'un plan que je visais, a priori, donc c'était quand même quelque chose de construit, hein. Comment vous allez présenter votre matière sur la question, par exemple, de la un groupe de jeunes m'a proposé un jour de faire une classe ou deux, enfin ça arrivait à faire deux ou trois, de 2 heures chacune, sur le mouvement punk. Alors ça avait à voir avec les troubles sociaux, avec la misère dans les alentours de Londres, etc. Et donc pour moi c'était à la fois inattendu et inespéré. Et donc j'ai souscrit à ça volontiers. Et bon, ils ont fait une sorte d'émission de radio en fait en live qui a été très appréciée de tout le monde et très, très féconde.
Alors... votre activité professionnelle, donc métier de transmission, et par rapport à ce métier, comment vous situez l'écriture? C'est une activité complémentaire, c'est une nécessité impérieuse, c'est un besoin d'expression qui vient vous enrichir vous personnellement?
D'abord, c'était une nécessité pour de préparation. Moi, j'ai le goût de l'atelier, j'ai le goût de la préparation, j'ai le goût du processus. Et ça ne m'a pas lâché, j'en suis encore là, j'ai moins de temps pour la scène, la présentation face à un public que du temps de préparation, de maturation et de voilà. Et donc toutes ces choses dont vous venez de parler sont évidemment sont avérées utiles et agréables parfois, par étayage de ce goût de préparer, de ce goût de m'adresser à un public. Alors c'est un public d'ouvriers à certains moments, public de cadres, public de directeurs de services dans des régions, etc. Mais qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'ai à apporter, étant donné la contrainte du stage, par exemple, ce qu'on me demande de transmettre. Et aussi, la contrainte étant aussi des gens que je ne connais pas, dont je fais la connaissance sur le terrain, et qui me guide, disons, à la minute presque, la façon, en tout cas, pas le contenu, mais la façon dont je vais l'acheminer. Voilà. Donc, toutes ces choses sont des étayages, en effet, de la parole. Et ça a un rapport avec l'écrit, parce que, si vous voulez, c'est construit, quoi. C'est construit comme une phrase, on va dire. Il y a une phrase et il y a un phrasé. Donc la phrase, c'est la construction de contenu. Et le phrasé, c'est ensuite la musique qui se déroule.
S'il est nécessaire d'écrire?
Pas plus aujourd'hui qu'hier. Ni plus que marcher si tu as deux jambes valides. Pas plus que me lever quand je n'ai plus sommeil. Un chien meurt s'il est privé de son flair. La truie qui doute n'en a plus pour longtemps. Eh, qu'est-ce qui te ferait préférer l'écriture à la vie?
And after all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find and speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I'm bound. What you have lost, I've never found. I lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on.
Que j'aille bien au fond de l'eau, avait dit le chirurgien, et que je remonte à la surface. J'aurais effectué ces allers et retours, chargés de nombreux silences. Je me serais imprégné d'une flore curieuse et assourdissante. À la fin, j'aurais eu le droit de m'aventurer dans la vie, mais dans le colimaçon d'une conque. Avant tout, un facteur cheval m'avait porté en Amazon sur le cadre de sa bicyclette, puis calé avec d'autres conques dans une chantilly de ciment. La nuit tombée, chacune d'elles se reflétait en abîme dans les mutismes criaillants des autres. Telle livrait une corde, telle délitait un tissu, telle s'efforçait à l'abolition de quelque chose, telle encore arrachait à un rêve une déclaration inouïe. Je ne retournerai plus à l'école maintenant. D'abord, le goût de réglisse me manquerait. Puis une plainte m'échapperait, tournoyante à l'infini. Il faut opérer la coquille.
Couleur FM 97.1. Nous venons d'entendre Nora Jones, Carry On. Jean Guillaume, la raison de ce choix ? Quelques mots.
Oui. Je crois que c'est la question du blues, en fait. Du blues, du jazz, du blues, mais surtout du blues, la voix du blues. Bon, je suis très intéressé par ces contrastes ou ces paradoxes. On disait de Joplin, à l'époque, une blanche qui a une voix de noir. Voilà. Alors bon, ça, c'est vrai que... tout à l'heure, sur France Culture, il y avait un interviewé, un philosophe, un certain... Tristan Garcia sur un dernier bouquin Nous, et il pointait une chose très intéressante, à la fois l'intérêt de la non pas des classifications, des catégories immuables, etc., puisqu'elles font problème, elles font conflit, pas seulement parce qu'elles font conflit, mais parce qu'elles figent. Elles figent la possibilité que ces catégories soient perturbées, soient percutées. Et donc, il parlait de spéciation, c'est-à-dire qu'on est plus dans les espèces, dans l'espèce que dans la race. La race fige et l'espèce est en évolution. Alors, c'est ça qui m'intéresse, peut-être dans ce choix, de façon sous-jacente, c'est effectivement d'entendre du blues dans une voix qui... qui ne serait pas prête a priori génétiquement à ça, etc. Voilà, c'est ce genre de choses. Voilà. Et aussi ça rejoint le poème puisque c'est un peu articulé. C'est le fait que bon, qui pourrait dire qu'il a été préparé, qu'il y a un destin dans la poésie, dans l'écriture. Bon, voilà. ça m'échappe complètement. C'est plutôt des circonstances. Encore une fois, une spéciation. C'est les conditions dans lesquelles les choses émergent qui sont intéressantes, les processus.
Alors les textes que vous avez dit sont extraits d'une revue qui s'appelle Soleil et Cendres, auquel vous avez participé. Mais avant de participer à cette revue dont nous allons parler un peu plus tard, vous avez aussi collaboré à une revue qui s'appelle Filigrane.
Oui, donc Filigrane, c'est un peu...
Une revue, pardon, je coupe la parole, de texte court, hein, c'est la définition de la revue 1000 mots maximum. Est-ce que je...
Ah, j'avoue que je me souviens plus de la règle.
C'est sur leur site.
Sur leur site, d'accord. Ouais. Donc j'ai participé plusieurs années durant à cette revue qui est à Carnoux en Provence, donc dans le sud, près de Marseille. Donc avec quelques autres Lyonnais, descendions en voiture, et voilà, pour notre plus grand plaisir. Voilà, c'est une revue très... je crois qu'elle était un peu plus ancienne que Soleil et Sang, on en parlera après. Mais en fait, ce sont quelque part, à quelques années près, ce sont des jumeaux, quoi. Des jumeaux qui seraient nés à quelques années d'intervalle. Mais du côté de l'inspiration et du côté des valeurs, quoi. Hein. Défense de la langue et aussi articulée sur ce qu'ils appellent les ateliers d'écriture qui ont toujours comme clé de voûte l'objectif de quand même de d'abord de t'aider à écrire tout à chacun et surtout les enfants en difficulté. Ça, c'est passionnant.
Voilà. Alors vous entrez. Je ne sais pas si le verbe convient. À Soleil et Cendres, comme on entre en religion, hein, si on a cru comprendre, hein, oui. Qu'il y avait un petit peu de ça. C'est une revue qui a été créée en 1983, qu'on est à son 116e numéro.
86, je crois. Ouais. Bon, importe.
Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous à ce moment-là?
Alors, cette revue ne représentait rien, si ce n'est une sorte d'Eldorado qui rayonnait jusqu'à moi, parce que j'en connaissais quelques-uns des membres que j'avais rencontrés au GFN, au Groupe Français d'Éducation Nouvelle, dans les universités d'été, puis j'entendais parler d'eux, puis c'était des gens du coin, du Nord Dauphiné, voilà, et j'avais beaucoup d'estime pour eux, parce que d'abord, c'était des travailleurs acharnés, ils abattaient des boulots de Romains, comme on dit en Aveyron. Et moi, ça me plaît, les gens qui travaillent, ça me plaît. Voilà. D'une part, et d'autre part, là, quand même, l'objectif, c'était quand même pas simplement le soutien scolaire, la répétition, mais la lutte contre l'échec scolaire, quoi. Alors ça, c'est quand même très ambitieux, et j'ai trouvé que ça valait le coup de soutenir. Quelle prétention, ça valait le coup d'accompagner cette démarche. Alors ça, c'était les gens. Et la revue, comme j'avais participé plusieurs années durant au comité de rédaction de Filigrane, eh bien, Filigrane étant à Carnoux et Soleil et Cendres pouvant se réunir tantôt du côté de Carpentras, tantôt dans le Nord Dauphiné, ben, je trouvais commode de participer à eux, d'autant que je les connaissais, d'autant que, voilà, et j'avais entendu parler de la naissance de cette revue. Je n'avais pas lu, ce qui d'ailleurs m'a été objecté quand j'ai voulu de participer au comité de rédaction, mais Jean-Guy, tu as lu nos revues, tu as lu notre revue, nos collections? Non, pourquoi? Voilà, donc... voilà, je suis entré par une sorte de grâce comme ça, qui m'a accepté pour un temps. C'était une année que j'ai beaucoup appréciée, parce que d'abord c'est de l'approbation, l'approbation en deux mots. Et oui, j'étais ensuite admis à participer au comité de rédaction au bout d'un an. Voilà.
Alors c'est une revue qui met en avant l'écriture collective.
Oui, le collectif, c'est une donnée clé, hein, dans la voûte de la, de la revue, parce que c'est pas simplement un principe rédactionnel, c'est un principe fondateur, fondamental et fondateur, qui a sa genèse. Alors je ne la connais pas complètement puisque je suis arrivé à peu près à la 15e année d'existence de cette revue. Mais c'est une pratique au quotidien de tous les membres de ce comité de rédaction qui sont tous enseignants ou inspecteurs de l'éducation nationale et qui ont tous conduit peu ou prou et souvent beaucoup des ateliers d'écriture avec des enfants en difficulté, soit directement dans leur propre classe, soit en mission dans les classes dites à PAC, donc culturelles. Et moi, j'ai participé plutôt à ce type de classe, n'étant pas instituteur ou maître des écoles. Et donc, ça concernait aussi les enseignants qui voyaient opérer sous leurs yeux des processus d'apprentissage qui n'en étaient pas, qui n'avaient pas l'air de ça pour autant, et à travers lesquels, quand même, les enfants posaient des questions, se disaient pourquoi il aurait fallu que j'écrive au passé simple et pas imparfait, enfin, des choses qui revenaient à des notions grammaticales. Par exemple, je me souviens d'une classe justement où il s'est avéré qu'il fallait faire la distinction à un moment donné sur le passé simple et et l'imparfait, voilà. Et que donc c'était très sensé de d'interroger l'erreur entre guillemets, puisque l'enfant n'avait pas respecté la concordance des temps réglementaire, et c'était intéressant de creuser le pourquoi du comment cette concordance du temps lui avait échappé. Voilà.
Alors, j'aimerais vous pousser un petit peu dans vos retranchements, parce que vous parlez des ateliers d'écriture, vous parlez d'écriture collective, mais vous parlez toujours, c'est très impressionnant, d'élèves en difficulté. Où est-ce qu'elle est l'écriture là-dedans ? Au-delà de tous les moyens qu'on peut inventer, de transmettre mieux, de transmettre avec l'accord de ceux à qui on transmet, où est-ce qu'il y a l'écriture des transmetteurs ?
D'accord. Ah oui, ça c'est aussi une clé de voûte du travail, enfin, plutôt dans le filigrane que dans la voûte même, mais quand même, bon. Quand on a posé la question en début d'atelier d'écriture, avec quoi écrit-on, et que tout le monde a parlé d'un stylo, d'un papier, de l'encre et tout ça, et que on finit par découvrir que c'est pas seulement, c'est pas ça, c'est pas le tout, etc., et qu'il y a un enfant qui finit par trouver ou plusieurs qui finit par trouver, on écrit avec des mots, ça commence comme ça. Et comme un enfant, à l'âge où on le prend, il a 6 ans, 8 ans, 10 ans, ou 15 ans, etc., ça fait 8 ans, 10 ans, 15 ans qu'il parle. Et donc, il utilise les mots. Donc, nous partons tous d'un bagage, on va dire, en commun et partagé, qui nous sert un peu de nourrissement après coup. Ça fait une sorte de cordon ombilical, en fait. On a été nourri par la langue. Chacun dans son milieu, chacun dans son contexte, chacun, voilà. Et il se trouvait que dans une des modalités de l'exercice de cette langue qu'est l'école, pas toujours en phase avec la rue, les copains, la famille, eh bien ce n'est qu'une modalité, on va dire. Même si c'est une modalité très importante pour accéder au travail, etc. Il reste que cette modalité, chacun en a une expérience, en fait. On a une expérience circonvenante, je ne sais pas comment ça peut se dire, et que donc, puiser dans les mots qu'il a, c'est la ressource à la fois première, primaire et fondamentale. Vous voyez ? Donc, à partir de là, si vous voulez, s'il s'agit simplement... C'est ça, simplement. J'ai failli dire des mots à transcrire. Oui, mais des mots à l'épuiser dans ses ressources personnelles, dans son histoire, qui sont à partager, parce qu'il y a parfois l'atelier commence par une fresque, et les enfants se lèvent pour aller écrire chacun un mot avec un feutre, avec une craie sur le tableau, et parfois dans le grand désordre, parfois en les associant, etc. Et que déjà, il y a des choses qui se disent et des choses qui se tissent. Voilà. Et que c'est visuellement visuellement constatable. On voit, et puis l'exercice suivant, c'est souvent de faire appel à ces mots-là, de choisir des mots que l'on voit, qui nous intéressent, de les mettre ensemble et d'accéder à des processus de liaison, de corrélation, etc. Voilà. Et donc on voit comment les choses se tissent, si vous voulez, à partir de la langue même des candidats à l'écriture.
Donc si je comprends bien, vous êtes plus préoccupé de faire écrire que d'écrire vous-même.
D'accord. Ah oui, c'est sûr que moi, je suis en classe face à un groupe, je suis préoccupé de faire écrire. Mais il m'arrive d'être participant à l'atelier lui-même. Hein, parce que, pas de raison, c'est pas spécialement pour démontrer que moi, c'est ça. Non, mais c'est parce que si vous voulez, si je me coltine les contraintes de l'atelier, je vais être moi aussi, à mon niveau, à ma maturité, je vais être en difficulté de liaison. Par exemple, je prends deux mots qui n'ont pas spécialement grand chose à voir avec eux, entre eux, je veux dire, et je vais avoir un temps de vacances, de vacuité, voire de vide, une sorte de vertige devant l'espace qui est à franchir entre un mot et un autre pour en faire la liaison, pour en faire l'articulation. Vous voyez ? Alors ça c'est bon, ça c'est pour dire que dans la classe même, dans l'atelier même, c'est important. Parfois que l'animateur se coltine le travail lui-même, parce que voilà, il n'y a pas de raison qu'il soit simplement perché au-dessus des tables, au-dessus des feuilles, tout ça. Et puis aussi parce qu'il en a, il est en général, enfin, et Sandre est dans beaucoup d'autres endroits, l'animateur, il a une pratique chez lui. Oui, ce qu'on dit, il y a une pratique de groupe, parce que souvent, mes collègues sont des gens qui sont très, très friands du travail collectif, d'accord ? Mais en même temps, ils écrivent chez eux aussi, hein, voilà, donc voilà.
Alors justement, vous apprenez à écrire, il y a différentes écritures, les maths par exemple, ça peut être aussi une écriture, et moi je voudrais savoir qu'est-ce qui fait qu'une écriture devient poésie ? Quelle est la différence entre l'écriture et la poésie ?
Moi, je crois que c'est une question de regard. Comment on en arrive à trouver un paysage ou un visage beau ? Il était le visage V, il était le paysage P, et quelqu'un passe et quelqu'un fait un compliment à la détentrice ou détenteur de ce visage, où on fait une croquis de mémoire ou sur le motif, pareil pour un paysage, etc. Donc, si vous voulez, je crois que c'est une question de regard, et le regard, lui, il est quand même induit par l'attention que l'on porte autour de soi. Cette attention elle-même, elle a forcément des sources, c'est-à-dire si on est trop stressé, si on est dans un milieu qui est peu porteur ou qui est empêchant parfois même, on va avoir cette capacité limitée. En revanche, les ateliers d'écriture collective, justement, étant donné que chacun vient d'une origine différente, d'une histoire différente, une sorte de calme et de goût, de plaisir est à la clé de ce travail, alors les uns et les autres vont... il va y avoir une forme de confusion extrêmement opératoire du fait que les ouvertures des uns se prêter à la curiosité ou à la difficulté des autres, et réciproquement. Parce qu'un enfant en difficulté, il n'est pas en difficulté partout. S'il est en difficulté partout, alors c'est une autre paire de manches. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire.
Ouais. Parce que quand on était petit, on faisait la différence entre l'écriture et la poésie, parce que la poésie, on les apprenait, c'était en vers. Après est arrivée la prose libre, donc on s'est dit... Fou rire là. Qu'est-ce qui vous fait rire dans ce que je dis en
fait ? Parce que je me reconnais dans le portrait de l'école que j'ai connu, bien que oui, je sois bien plus âgé que vous. Mais parce que voilà. Mais si vous voulez, en tant qu'enfant, bon là maintenant on le raisonne après coup. Mais en tant qu'enfant, ce qui vous est proposé à l'école, enfin ce qui m'a été proposé, moi je l'ai pris pour argent comptant. Je n'avais pas de recul. Je ne disais pas la gare des Michards, qu'est-ce qu'il faut penser, quel est le sens. Non, je n'avais pas de critique à formuler, d'autant que la gare des Michards, c'était bourré de photos, d'images, de peintures, de machins, et que les questions elles-mêmes, elles étaient curieuses, que ça excitait la curiosité. Vous voyez, donc effectivement, aujourd'hui, on n'enseigne peut-être plus la langue comme ça. Tant mieux ou tant pis, je sais pas. Enfin bon, en tout cas, on a été formé comme ça. Ça a peut-être empêché certains de voir le sens par eux-mêmes. Si on leur demandait quel est le sens, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire sur la France consacrée. Bien sûr, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, moi j'ai jamais su. J'ai résisté, parce que effectivement, après, les mots sont venus pour dire ça. Qu'est-ce que je sais que moi, est-ce que je sais moi ce que Victor Hugo a voulu dire? Non, je sais pas. Je peux supposer, etc. Mais bon, ça a pu perturber certains enfants, en effet, de ce tour de magie, cette question de magie. Genre retourner les tables, regarder si le sens frappe trois fois ou quatre. Donc, alors, pour revenir plus sérieusement à la question, l'écriture et poésie, j'ai commencé par répondre par c'est une question de regard. Voilà. C'est-à-dire qu'un texte de mathématiques. Et même certains acteurs se sont amusés, Samy Frey par exemple s'est amusé, et bien d'autres, à lire le bottin, l'annuaire des téléphones, d'une façon qui, dans une théâtralité sans esbrouffe, sans chantilly pour autant, mais qui donnait à penser, qui donnait à vivre, qui donnait à sentir, vous voyez. Donc je maintiens cette clé pour moi, c'est une clé à ma partition, que si je regarde les choses dans le mode majeur, par exemple, pour prendre cette métaphore, hein, ou si je regarde du côté des bémols, je vais entendre des choses différentes dans la musique d'un texte quel qu'il soit. Voilà. Pour moi, c'est ça, le démarrage, c'est ça. Le démarrage au sens... c'est une tension de maturité, quoi, de maturation. Voilà. Maintenant, après, ça démarre suivant chacun. Hein. Moi, je rencontre des gens qui se plaisent à écrire de la poésie. Et moi-même, étant enfant, les modèles scolaires étaient très prégnants, quoi. Hein, voilà. C'était l'Alexandrin. J'ai écrit mes cours en banc. Je ne sais pas, personne ne voit la couleur de ma peau en ce moment, mais... je suis un peu rouge de dire ça, mais bon, malheureusement, à 15 ans, j'écrivais à l'Alexandrin couramment.
Et heureusement que la poésie moderne a dépassé tout ça.
Oui, peut-être, heureusement.
Bon, alors, il y a la gare des Michards. dans la gare des Michards, il y a Arthur Rimbaud.
Ah oui.
Bon, nous sommes au 21e siècle, il n'y a pas de la gare des Michards du 21e siècle. Et Jean-Guillaume, il est où quand il écrit? Vous nous avez lu des textes, vous allez nous en lire encore.
Oui.
Vous vous situez comment?
Dans l'histoire de la littérature?
Dans l'histoire de votre écriture par rapport à tous ceux qui vous ont précédé.
Oui. Forcément, je suis un emprunteur, pas tellement un pilleur, parce que ce n'est pas partie de la morale, mais un emprunteur. Disons, quand j'écris, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui par exemple, quand j'écris, j'ai notion de à qui j'emprunte ce que j'écris. D'accord ? Donc, si c'est trop près de la citation, je vais la mettre en italique. Si c'est assimilable, et je cherche à l'assimiler quand même, à me l'approprier, on va dire. Hein. Mais voilà, et là j'ai une référence célèbre, qui est Aragon, parlant de la façon dont il a emprunté, guillemets, emprunté beaucoup de choses. Il dit, si les gens savaient ce que j'ai emprunté, voilà.
Thank you.
Oui, je vais lire un texte toujours tiré de Soleil et Cendre que j'ai intitulé Catacombe. Parce que c'est un lieu de refuge, c'est un lieu de création, c'est un lieu de contemplation, c'est un lieu groupal où la peur côtoie l'espoir. Et je crois qu'au fond, c'est une des partitions que je joue, je m'aperçois de jouer, d'avoir joué depuis quelque temps et que je vais continuer à jouer. C'est un peu l'avenir en perspective. On n'est jamais tranquille bien longtemps. Un sillon, au midi, avait d'une compagnie de perdrix en un jour, épuisait la voix, les cris. Elle s'était contentée, semble-t-il, tout ce temps, d'enchaîner leurs soucis à leur absence. À faune, toutes se lèvent, froissent leurs ailes à la poussière, sauf celle dont le gîte l'avait lové au rêve. Émergée de son obscurité, elle s'arrache enfin à la glaise, elle fuit son silence. La nature ignore l'équilibre. L'oiseau, allure solennelle, indifférente, décolle alors tout seul dans un long rire intérieur. Le nord la prend de face et de son vol de glace, le soir lui fait un nid.
Couleur FM 97.1, nous venons d'écouter Chet Baker, My Funny Valentine. Même chose, même question que tout à l'heure, Jean-Guy.
Oui, j'avais choisi cet interprète et ce morceau, d'abord et primitivement et principalement dans sa version vocale. Je recommande à tous ceux qui voudraient aller se replonger dans cette interprétation, elle n'était pas transmissible à l'antenne, mais elle existe et elle est très émouvante pour moi. C'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose de la solitude, c'est quelque chose de la vie intérieure, c'est quelque chose de, et aussi de la cohérence, de la perméabilité réciproque entre l'instrument et la musique. Entre la voix et l'air, la mélodie. Et en ce qui concerne Chet Baker, c'est l'extraordinaire pour moi, l'adverbe, c'est la cohérence entre l'instrument et la voix. Voilà.
Alors, vous vous éloignez de l'équipe de Soleil et Cendre après plusieurs années de compagnonnage.
15.
Est-ce que c'est pour que l'écrivain donne à son écriture une autre direction ?
Non, ça s'est pas fomenté comme ça. Et j'ai eu un très très grand plaisir, c'est peu dire, de travailler dans cette famille de pensées et d'activités. J'ai reçu beaucoup et je crois que j'ai apporté un peu. Voilà, et voilà, les échanges ont eu lieu. Je suis attiré. Parallèlement, d'ailleurs, c'est pas une sorte de tout ou rien, de maintenant ça va changer, etc. Non, c'est une continuité, si vous voulez, c'est suivant d'autres modalités. Voilà, j'ai d'autres modalités d'écriture, y compris avec d'autres, et on va pouvoir parler de ça, mais soit les cendres, ça reste un socle, ça reste des amis, ça reste. Voilà, c'est sûr, c'est dans le background de mon activité d'écriture.
Alors, quels sont ces chantiers que vous entreprenez ?
Alors, il y en a beaucoup. Disons que ceux qui me viennent à l'esprit immédiatement, c'est principalement des correspondances. Je me suis intéressé depuis pas mal de temps à la lecture des textes que des auteurs extérieurs à Soleil et Cendre envoyaient à Soleil et Cendre, ou m'envoyaient avant de les envoyer à Soleil et Cendre, ou autant de modalités comme ça, et puis par une sorte d'osmose avec les milieux que j'ai pu fréquenter, j'ai eu à recevoir et à lire et à restituer, à faire des retours aux gens qui m'envoyaient des textes à lire, qu'ils soient poétiques, qu'ils soient théâtraux, qu'ils soient ou même universitaires, voilà, donc une sorte de melting pot très très agréable pour moi de toucher un peu à tout comme ça, mais quant à l'écriture, quant à la réflexion, quant à écouter est-ce que un tel, une telle dit bien ce qu'il veut dire, etc. Voilà.
Daniel, vous avez demandé tout à l'heure qu'est-ce que c'était que la poésie. Moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que c'est que l'écriture ? Entre la matérialité des mots, vous en avez parlé un peu avec les élèves en difficulté, le geste qui est encore quelque chose de physique et l'immatérialité d'un sens. C'est quoi l'écriture ?
Oui, ça c'est... Décidément, mes retranchements ne sont que des ouvertures. Vous avez dit le corps des choses, vous avez dit à un moment donné, là, dans cette...
Mais on a la matérialité de quelque chose.
La matérialité.
Hein, c'est les mots, voilà. Puis le geste, qui est quelque chose de très corporel, voilà, physique.
Oui. Alors, donc je réponds à ça, c'est-à-dire effectivement à cette nouvelle partition dont la clé serait la matière des mots, mais la matière, toute matière, à la limite, hein. Bon, on a deux références qui sont d'une explicite possible, qui sont Ponge d'un côté et Givic de l'autre, pour moi. Bon, je ne connais pas tout. Et donc là, après, il m'est arrivé de lire Vénus Corrigata, poétesse libanaise, je crois, sous cet angle-là, au Printemps des Poètes, récemment. Et c'est évident que là, je crois que beaucoup des gens qui m'intéressent de lire sont des gens qui sont axés sur le corps des choses. Le corps des choses. Voilà. Et donc, j'en suis là aussi. Et étant un étudiant à vie, il m'est arrivé à un moment donné de m'occuper de mon corps un peu, et du coup de trouver qu'il y avait là une galerie à suivre, pas simplement une galerie de portraits, mais une galerie à creuser, et qui en la creusant faisait rencontrer d'autres galeries, la galerie des autres, et ça aussi, de voir qu'en effet... en se rendant compte tout d'un coup que le corps était en jachère, et de lui donner un peu de culture, de lui donner un peu d'espace, de mouvement. Alors ça rentre après, ça rentre dans, je dirais, dans l'écriture. D'ailleurs, rapidement, je vais vous lire quelque chose là concernant. Alors c'est le numéro 109, 109 qui habilement s'est intitulé 109, S-A-N-G, avec un sous-titre « La vie, cette incision où s'insinue le sens ». Et j'ai trouvé enfin dans ce numéro la possibilité de placer quelque chose que je voulais placer depuis très longtemps, ayant lu Dominique Fernandez Porporino, le dernier des castrats selon lui, et en ayant vu Farinelli, etc. au cinéma, et écouté... avec immense plaisir tous les hautes contres contemporains et même anciens avec je ne sais plus comment ça s'appelait Deller, Alfred Deller. Alors, donc le texte que je vous lis là maintenant rapidement, c'est Porporino, donc du titre du roman de Dominique Fernandez. Le corps des choses, donc les aigus percent à toutes jambes les ruelles de sa voix. L'amour de l'art est perché sur son berceau. Un peu de grâce au creux des fossettes, puis l'or de l'aluette. La paille finira la toilette. À l'égard de cet âge malléable, tout est permis, sauf le doute. Moite dans sa soie de vermine, l'adulte séduit. Le mythe l'emporte à bas bruit. L'enfant ne reviendra pas. Force revient à la dette. Marais, marécages, des amateurs de voix de dessus, comme on disait, sans antidote narcissique. Avec son reste, l'orfèvre lui fabrique une réplique, un abîme, bain de siège, les brûlants, rougeoyants. Monte du futur falsetto, la plaie faite à l'albâtre. On attend la brillance dans la fibre des harmoniques. D'avance, on entend sa transe. Amont et aval, un fleuve de tourbe, navigué dans son tombeau et passant bagarre, mutinerie sectionnée, dissue seulement par le haut, épousé son double en os poudré, écorché vive. Depuis son grabat de délire, le mécène exsude sa soif inextinguible d'humeur hors commerce, à s'offrir en même temps le sacrifice et l'éternité. Le souffle emplit le buffet de délices octeux, de bourdons continus. Il implose en plein vol, coït monstrueux avec le temps pulvérisé, de l'oiseau enfante la femme. C'était bien le plus simple.
Merci, Jean-Guy. C'était très beau.
Merci.
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.